à l'actu. Hélène Battini, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Mobilisation symbolique hier à Tomino, dans le Cap-Corse.
Oui, une cinquantaine de personnes se sont mobilisées au pied de la tour génoise de la commune à l'appel de Fais-moi Gourse. Il y a une mobilisation symbolique, en effet, après que les acquéreurs de ce monument historique, dont ils voulaient faire un meublé de tourisme, se soient finalement rétractés. Mais une affaire qui a soulevé la question des moyens dont disposent les collectivités pour préempter ce type de bien. Hier, les partisans de la majorité territoriale ont donc mis en avant les bénéfices de l'autonomie de la Corse dans ces cas de figure. L'autonomie qui pourrait apporter, selon eux, les leviers fiscaux, financiers et juridiques aux communes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et les villages, les villes doivent trouver des solutions à droit constant, sans plan local d'urbanisme pour la commune de Tomino, mais surtout sans argent pour beaucoup. On écoute le maire François Orlandi au micro de Christophe Duigi.
Comment réaliser une opération de ce type au prix qui avait été envisagé, lorsque l'on sait qu'on a d'autres priorités, bien sûr, beaucoup plus prégnantes pour le quotidien, mais également des moyens financiers à mettre en œuvre, notamment pour sa transformation, sa restauration, qui n'était pas du tout à la portée d'une commune comme la commune de Tomino. Et je pense que la force collective qui a été témoignée à travers et cette mobilisation et les différents témoignages que nous avons pu obtenir, plus haut niveau de la région. Les services de l'État ne sont pas du tout restés étrangers à notre démarche. Ils nous ont aidé à chercher peut-être des voies et moyens sur le plan juridique de faire cadrer un petit peu tout cela. Tout soutien confondu, on pourra réussir à donner à cette tour l'âme qui doit être la sienne, la destination qui doit être la sienne. L'idée n'est pas de mettre le patrimoine sous cloche, mais de lui donner un sens. On n'est pas obligé de le laisser s'endormir jusqu'à mourir.
On célèbre, Hélène, aujourd'hui un droit évident, naturel, mais qui ne l'a pas toujours été.
Oui, cela paraît évidemment très naturel aujourd'hui, mais le vote des femmes n'est pas si ancien. En France, il leur était accordé il y a tout juste 80 ans, le 21 avril 1944, par le général de Gaulle. Une victoire pour les féministes et les suffragettes après plusieurs années de revendications, Faustine Calmé.
Ce texte signé depuis Alger pour une France encore soumise à l'occupation allemande sanctionne 50 ans de travail législatif et des années de mobilisation citoyenne.
Qui en voulez-vous voter ? Pour protéger la femme et protéger l'enfant. Merci de nous faire de la propagande.
Les suffragettes ont provoqué le débat. La signature du général de Gaulle ouvre aux femmes la voie des urnes qu'elles prennent pour la première fois un an plus tard, avril 45.
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Elles sont nombreuses à voter, même si leur abstention est un peu plus élevée que celle des hommes et qu'au départ, elles demandent souvent à leurs pères ou maris comment faire.
Sans doute une majorité de femmes à qui on avait toujours dit que la politique, c'était pas pour elle, qu'elle n'avait pas à s'intéresser à ça.
Anne-Sara Moalik, docteur en histoire à l'université de Caen, spécialiste du vote des femmes.
Et donc forcément, qui se sont trouvées tout d'un coup avec une responsabilité dont elles se sont emparées avec sérieux, et c'est pour ça qu'elles ont été demandées, qu'elles se sont renseignées, qu'elles ont lu des journaux.
Avec pour résultat de porter d'autres femmes au pouvoir.
On va avoir à la fois des femmes dans des conseils municipaux, quelques femmes maires ici ou là, et puis on va avoir 33 femmes élues députées de la République, et ça, c'est une grande première.
Elles ont depuis été élues à tous les types de mandats, sauf celui de présidente de la République.
Le Sporting et l'ACA confirment leur bonne forme du moment.
Oui, très bonne soirée pour nos clubs insulaires de Ligue 2. Hier, les Bastiais se sont imposés 1-0 à Guingamp grâce à un but d'Issiar Dramé à la 26e minute, dominé durant une grande partie de la rencontre par les nombreux assauts bretons. Les Tourquignons ont fait preuve d'une grande solidarité et d'une solidité défensive précieuse pour une victoire qui fait un grand bien pour le maintien. Bastia enchaîne un troisième succès de rang à l'extérieur et un quatrième match consécutif sans défaite. Pour l'entraîneur Bastia Miguet-Moret, ce succès à Guingamp est une grande satisfaction évidemment.
Oui, comme depuis un petit moment. Après, on s'appuie sur les valeurs qui font qu'on prend des points actuellement, c'est-à-dire la solidarité, l'humilité, la rigueur. Les garçons qui rentrent sont au niveau, donc oui, c'est une satisfaction. On sait qu'on n'a pas fait le meilleur match ce soir en termes de jeu. Mais j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, dans ces situations, le plus important, c'est d'engranger des points. Et c'est ce qu'on a fait sur les quatre derniers matchs. Il faut tenir compte que la saison a été longue, a été éprouvante. Donc il y a bien sûr la fatigue physique, mais il y a également la fatigue mentale. Quand on a aussi peu le ballon dans les rencontres, c'est sûr que ça use. Mais malgré tout, ils répondent présents. Et une fois qu'on a ouvert le score, on a vu que derrière, on a fait preuve d'une solidarité à toute épreuve. Donc, félicitations à eux.
Mais au classement, les Bastiais sont 13e avec 43 points, 8 longueurs du premier relégable, 3. Prochaine rencontre en championnat, ce sera Concarneau et dès ce mardi soir à Fouriagne. La CA aussi a confirmé hier soir, on le disait, en poursuivant sur la lancée de sa victoire de samedi dernier face à Saint-Étienne. Les Ajacciens se sont imposés hier face à Caen, 2-1. Michael Barreto a mis le premier à la 20e minute. Christopher Ibaï a conforté à la 45e en doublant la mise. Pour Olivier Pantalone, l'entraîneur ajaxien, cette rencontre s'inscrit dans la lignée donc de celle de la semaine dernière. Un sentiment confié à l'issue de la rencontre hier soir au micro de Philippe Perrault.
Un peu à l'image de ce qu'on a fait la semaine dernière face à Saint-Étienne, j'avais des doutes par rapport à la capacité de pouvoir reproduire ce genre de match et puis on a malgré tout réussi.
On a vu quand même encore 2 buts et également des mouvements intéressants, une équipe libérée.
Il y avait quand même malgré tout encore une petite crainte par rapport à ce maintien. Je pense qu'aujourd'hui avec 45 points, on peut dire que même si mathématiquement ce n'est pas encore fait, on peut dire qu'on est maintenu.
On regarde toujours un petit peu vers le haut, vers la 5e place.
Non, il y a trop d'équipes qui luttent pour l'accrocher, on est trop loin. L'ambition, ça sera finir dans cette première partie de tableau, oui, c'est certain.
Pas de regrets par rapport à cette période difficile que vous avez vécue en février?
Non, des regrets, il ne faut pas en avoir. On a vécu des moments un peu compliqués, il y a eu des départs de joueurs, il y a eu quelques blessures qui ont handicapé le groupe. À un certain moment, quand on est limité, il ne faut pas non plus nous rire de regrets par rapport à ça, d'autant plus que à cette époque-là, notre classement dépendait beaucoup des résultats à domicile.
La CA occupe la 11e place du classement avec 45 points, 5 longueurs de retard sur Rodez, le 5e. Les Ajacciens se déplacent ce mardi à Valenciennes, la Lanterne Rouge, déjà condamnée au national.